chers auditeurs et auditrices de Studio Kalangou, bonsoir, bienvenue dans ce forum de Studio Kalangou. Femmes et entrepreneuriat au Niger, opportunités et obstacles, c'est le thème du jour. Au Niger, les femmes représentent plus de 50% de la population selon les données de l'Institut national de la statistique de 2012. Au Niger, le domaine entrepreneurial compte des petites entreprises et d'entreprises individuelles. Certaines femmes ont décidé de prendre leur destin économique en main à travers des activités génératrices de revenus. Ces dernières affirment que diriger sa propre entreprise constitue une opportunité d'autonomisation. Les observateurs avertis reconnaissent que l'entrepreneuriat féminin offre des avantages pour ces dernières et pour la société. Alors, comment se présente le paysage de l'entrepreneuriat féminin au Niger ? Quelles sont les filières d'affaires que développent les femmes ? À quels défis et obstacles les femmes entrepreneurs se confrontent-elles au Niger ? Et comment promouvoir la culture entrepreneuriale auprès des jeunes filles diplômées ou non ? À ces questions et à bien d'autres, nous tenterons de trouver réponse au cours des 45 minutes à venir. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio Madame Assouma Abdou Souradja. Elle est promotrice de Idées Féminines qui excelle dans l'agroalimentaire. Bonsoir Madame. Nous recevons également Madame Issa Ado Amina, elle est promotrice de Fortitude Réagisse, une entreprise d'hygiène et d'assainissement qui excelle également dans le recyclage des déchets solides non biodégradables. Bonsoir.
Bonsoir madame.
Et merci à vous d'être venu. La Chambre de commerce a invité, n'a pas envoyé de représentants pour des raisons qu'on ignore. Je suis Nafisa Adam Sirfo à la modération. Femmes et entrepreneuriat au Niger, opportunités et obstacles, c'est notre thème du jour. Et dans cette première partie, nous allons faire un état de lieu de l'entrepreneuriat féminin au Niger avec nos invités. Mais avant de commencer, chers invités, veuillez présenter vos structures que vous représentez. Je commence avec vous, Madame Assouma. Présentez-nous Idées Féminines.
Je suis Madame Assouma Abdou Souradja. Je suis la promotrice de l'établissement Idées Féminines. Nous œuvrons dans la transformation agroalimentaire, dans la formation des jeunes et des femmes scolarisées ou non. Nous sommes aussi dans la restauration.
D'accord. Et de votre côté, Madame Amina, présentez-nous Fortitude Réagisse.
Je suis Amina Issa Ado, je suis directrice de Fortitude Réagisse. Fortitude Réagisse, c'est une branche de Fortitude parce que Fortitude, c'est quand même 1, 2, 3 petites entreprises ensemble. Donc, du côté de Réagisse, nous faisons le recyclage des déchets solides non biodégradables, le placement des poubelles, l'hygiène et l'assainissement parce que nous fabriquons nous-mêmes sur place aujourd'hui les produits d'entretien, d'hygiène et d'assainissement.
D'accord. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet pour connaître en profondeur ce que vous faites, nous allons vous demander tout d'abord, comme le thème de notre forum aujourd'hui, c'est femmes et entrepreneuriat au Niger. Alors, vous, vous excellez aujourd'hui à travers des petites activités. Que représente l'entrepreneuriat pour vous? Je commence avec vous, Madame Amina.
Je crois que ça, c'est un projet de vie pour moi parce que je pense que quelque part, il y a des choses qui sont innées en nous. Je me rappelle, j'étais déjà enfant au primaire. Vous voyez, on fait les petits kakandadi que nos grands-parents font. Après, je lui dis, je vais aller vendre aussi. Je pense que ça a toujours occupé une place importante dans ma vie et je dis, c'est inné. Parce que pour moi, aujourd'hui, ça représente le combat de toute une vie. Mm-hmm. C'est de dire, on le dit souvent, on ne peut pas toujours tout attendre de l'État. Donc, pour moi, c'est de montrer le chemin, de dire que quel que soit le domaine qu'on prend, on peut exceller, on peut donner l'exemple. Quand on parle dans le cadre de l'hygiène, l'assainissement, la gestion des déchets, ce n'est pas un truc que les femmes embrassent. Donc, c'est de montrer aux autres que quel que soit le domaine qu'on prend, il faut aimer ce qu'on fait et puis il faut se donner les moyens d'aller de l'avant.
Oui, et en termes de définition, comment vous, aujourd'hui, vous définissez l'entrepreneuriat?
Pour moi, c'est vraiment une affirmation de soi, en fait. Je vais dire, on n'a pas besoin d'aller à l'école, d'avoir des grands diplômes. Nos grands-parents, je prends toujours cet exemple, ils étaient entrepreneurs. Mm-hmm. C'est comme les femmes qui vendaient le masa, kékéné et autres. Ça, c'était l'entrepreneuriat, mais peut-être archaïque. Mm-hmm. Donc, pour moi, c'est vraiment une affirmation de soi. Et c'est vraiment pour dire, oui, on peut faire quelque chose et on se donne le moyen de le faire.
D'accord. Et vous, Madame Assouma, aujourd'hui, que pouvez-vous nous dire sur l'entrepreneuriat féminin?
Merci. Je pense que la femme, naturellement, est née pour entreprendre, hein, parce que l'entrepreneuriat commence déjà au foyer. Et lorsque nous gérons bien nos foyers, nous entreprenons déjà d'une manière ou d'une autre. Mmh. Et ce qui nous motive à aussi entreprendre, c'est cette ambition de pouvoir apporter un plus dans le développement d'abord de sa famille, mmh, et aussi dans la gestion de tout ce qui est financier. Mmh. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, c'est deux mains qui doivent se laver. Mmh. Moi, particulièrement, ce sont mes motivations. Mmh. Et comme ma collègue l'a si bien dit, il faut d'abord aimer ce que nous voulons faire parce que ce n'est pas tout le monde qui peut se lever et entreprendre. Mmh. Ça demande d'abord de la motivation, de l'engagement, de l'amour afin de choisir la branche et de ce que nous allons faire en entreprendre. Mmh. Mais il y a aussi une autre motivation, mmh, et c'est-à-dire que lorsque nous entreprenons, nous ne regardons pas tout simplement à nous. Il faut choisir quelque chose qui va faire bénéficier la population le plus grand
la
nombre.
Société, la société, toute la société,
tout à fait. Oui. Et qui va contribuer au développement. Et c'est très important. C'est dans ce domaine que moi, dans ce sens que moi, d'ailleurs, j'ai choisi l'agroalimentaire.
Mmh. Justement, l'agroalimentaire aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites concrètement?
Je suis dans les épices et assaisonnements naturels, et aussi les farines, notamment la farine infantile, et aussi les farines pour faire nos pâtes naturelles. Mmh. Vous savez, j'ai été motivée par d'abord nos matières premières mmh, que nous produisons au Niger ne sont pas bien valorisées. Mmh. Ils sont pas bien, tels que, par exemple, si je prends le domaine des épices, c'est ça mon domaine d'abord. Mmh. Et vous savez, les gens cherchent du goût. On cherche le bon goût en allant chercher ces additifs culinaires que, mmh, nous savons pas d'où ça vient. Et on vient, on met dans les repas. Mmh. Et nous savons que la femme a la maîtrise de la marmite. Donc, la gestion de la santé de sa famille dépend d'elle.
Dépend d'elle, oui.
Donc, si elle vient, elle met de n'importe quoi, excusez-moi, mmh, pour assaisonner juste pour chercher le goût. Ça va même impacter la santé. Et nous avons vu, lorsque nous faisons 10 ans, 20 ans en arrière, il n'y avait pas ces maladies-là que les gens développent maintenant de si bas âge. Mm-hmm. Et avant que vous appreniez qu'un jeune de 30 ans, 20 ans développe la tension artérielle ou bien diabète, c'était rare. Il faut, mm-hmm, voir ça dans la vie des gens qui sont très âgés. Mm-hmm. Mais avec le temps, et tout ce que nous consommons impacte sur notre santé. Mm-hmm. Et donc maintenant, ce sont des jeunes de 20 ans, de 5 ans. Moi, j'ai vu un enfant de 9 ans actuellement qui souffre de la santé.
Malheureusement.
Et du côté tension artérielle, des problèmes cardiaques. Mmh. Et là, il faut que ça nous interpelle, nous les femmes, pour, mmh, que nous puissions savoir ce que nous faisons, ce que nous mettons dans les marmites. Donc, mmh, le choix, c'est d'aller vers ce qui est là, produit chez nous, et de les transformer afin de les consommer.
D'accord. Alors, vous produisez aujourd'hui des épices. Des épices, vous transformez autant pour moi aujourd'hui. Mmh. Des épices comme...
Je fais marga épices, mm-hmm, et c'est un cocktail de tout ce qui est disponible chez nous. Nous avons ici chez nous de l'oignon, mm-hmm, nous avons de l'ail. C'est déjà bon. Nos, d'accord, parents, comme, mm-hmm, ma collègue le disait, ce sont ces assaisonnements qui ont servi pour eux vraiment de repère pour aller vers la cuisine. D'accord. Elle sait qu'elle ne va pas choisir tout ce qui... Elle ne connaît pas. Mm-hmm. Elle met dans la marmite ce qu'elle connaît, ce qu'elle maîtrise. Mm-hmm. Donc, nous faisons aussi de l'arôme naturel parce que nous avons vu que les femmes vont au marché pour chercher ces arômes, mm-hmm, que nous ignorons complètement leurs origines et leurs compositions. Mm-hmm. Donc, aujourd'hui, vous pouvez avoir des épices bien préparées, bien
mélangées. À base de produits naturels.
À base de produits, matières premières naturelles ici chez nous. Mm-hmm. Vous pouvez avoir de l'arôme naturel, je l'ai nommé dandano, mm-hmm, et vous cherchez du bon goût, je pense que ça vous va largement.
Alors, autant de motivation au côté agroalimentaire. Vous, Madame Amina, parle-nous de vos débuts. Qu'est-ce qui vous a d'ailleurs motivé à vouloir exceller dans le recyclage des déchets solides non biodégradables?
Je pense que j'étais plutôt axée sur les ONG portées sur la préservation de l'environnement et tout.
C'est-à-dire que vous avez travaillé...
Oui, j'étais dans ces ONG-là. Après, j'étais plus axée sur... femmes et changement climatique, femmes et adaptation, etc. Donc après, je pense que quelque part, ça a un peu influencé. C'est vrai qu'à mes débuts, j'étais dans la restauration. Donc là aussi, je me suis rendu compte qu'on produisait... beaucoup, beaucoup de déchets et qu'après, on n'a pas toujours le bon réflexe de les recycler. Mmh. Le seul réflexe d'ailleurs, c'est de s'en débarrasser. Donc, c'était de là qu'était partie vraiment l'idée du recyclage. Donc, chemin faisant, on avait créé un centre où on a formé, je pense, depuis 2015, hein, plus d'une cinquantaine, une centaine de jeunes dans le cadre de la récupération, de la transformation des déchets solides non biodégradables. Mmh. Et après, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui évolue et qui développe ses idées sur le temps. Mmh. À chaque fois, il y a une idée qui émerge ou il y a un modèle de réussite quelque part qu'on copie, on le greffe à nos activités et on continue. Oui, et aujourd'hui, en 2024, on est aussi, comme j'ai dit, dans la fabrication de tout ce qui est produit d'entretien d'hygiène, les savons liquides, les savons durs, les eaux de Javel et tout. Parce que pour moi, tout ce qui va avec la gestion des déchets va forcément avec l'hygiène.
Et aujourd'hui, quels sont les articles ou bien les déchets que vous recyclez?
On recycle un peu beaucoup de choses, j'allais dire. Vous voyez, on est toujours dans le recyclage des pneus où on fabrique tout ce qui est, si vous voulez, les bancs, les poufs, etc., avec les pneus, avec les bidons des jus, on fait des petites gourdes pour les élèves. Aujourd'hui, notre produit phare qu'on recycle quand même, c'est le papier carton. Parce que vous savez qu'il est possible de transformer le papier carton en complément alimentaire pour bétail.
Expliquez-nous.
Les animaux, déjà, ils mangent le carton. Donc, quitte à ce que ça soit propre, en fait. Donc voilà, le carton, on le prend, il y a une technique pour enlever l'encre, pour enlever tous les déchets. Donc après, on le broie, on augmente.
Et c'est certifié par les spécialistes de la question?
Oui, on a, c'est quand même un truc que ça n'a même pas commencé au Niger. Aujourd'hui, au Sénégal, ils sont en avance. Aujourd'hui, même au Niger, avec les eaux et forêts et tout, ils sont aussi en avance sur ces questions. Il y a des recyclages techniques, on ne se hasarde pas tant qu'on a pas la certitude ou la certification. Pourquoi aujourd'hui nous on évite le recyclage de tout ce qui est plastique? Parce que quand on doit brûler et tout, il y a certaines étapes qu'on ne maîtrise pas. Donc on essaye d'aller sur quelque chose qu'on maîtrise. Il y a beaucoup de choses qu'il est possible de faire. On se dit ça va venir, c'est toujours les moyens et la technicité et tout. Mais comme j'ai dit, aujourd'hui notre produit phare c'est vraiment ce complément alimentaire pour bétail à base de papier carton et tout ce qu'on faisait avant. Je dis, on copie toujours les modèles de réussite, on essaie de les adopter à notre réalité et puis on essaie de voir ce que ça va donner.
D'accord. Alors vous, Madame Souradja, vous qui évoluez dans l'agroalimentaire aujourd'hui, même le paysage même entrepreneurial du Niger, comment il se porte selon vous?
Bien, je veux dire que c'est différent de depuis 10 ans en arrière. Moi, j'ai commencé mon activité en 2001. En ce moment, je faisais ça de façon informelle. À partir de 2012, j'ai pris vraiment l'activité au sérieux. Et j'ai pris mon RCC, mon IF et tout. Et je l'ai donné vraiment une...
C'est-à-dire aujourd'hui, vous êtes dans le formel?
Je suis dans le formel. Et donc, le paysage de l'entrepreneuriat, je peux dire que je suis satisfaite de voir que beaucoup de femmes se sont réveillées. Nous sommes dans le domaine des femmes. Il y a beaucoup de femmes qui se sont levées et qui pratiquent vraiment l'entrepreneuriat. Mais il va falloir aussi que on puisse les sensibiliser sur la manière de le faire, d'être formelle et aussi de respecter les mesures d'hygiène. Le marché... je peux dire que le Nigérien n'est pas encore bien sensibilisé sur le fait de consommer ce qui est fait chez lui. Et on a comme l'impression que les gens se débattent.
Consommer local.
Voilà, les gens se débattent pour vraiment entreprendre, mais toujours est-il qu'il y a une partie de la population qui ont aussi les yeux sur tout ce qui vient d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi, parce que peut-être ils sont mal informés. Sinon, c'est ça qui fait que souvent, il y a un peu de réticence et donc ça fait un peu de manque à gagner sur le plan des chiffres d'affaires. Il y a aussi le fait que tout le monde veut faire la même chose.
Justement,
tout le monde court vers la même direction. Pourtant qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut innover.
Il y a autant de secteurs
à aborder. Et même sur le plan mon secteur de l'agroalimentaire, il y a beaucoup de choses encore à découvrir. Beaucoup de produits encore à découvrir dans les villages, beaucoup de choses qu'on peut faire.
D'accord.
Donc voilà, le climat des affaires, c'est pas totalement encore ça, mais je pense que c'est essentiellement dû à la mentalité de la population.
Le climat des affaires n'est pas encore trop satisfaisant selon Madame Souradja. Vous, de votre côté, Amina, pensez-vous qu'il y a des avancées à la date d'aujourd'hui parlant d'entrepreneuriat féminin ici au Niger?
Les avancées, oui, mais ça se fait timidement. Vous savez, la réalité, hein, je dis, on ne peut entreprendre sans un soutien financier. Ça, moi, je le dis directement. C'est vrai qu'il y a, on dit, il faut avoir la motivation et tout, mais il faut avoir vraiment une caisse solide.
Mais est-ce que vous avez débuté avec un financement?
À un certain moment, j'ai eu des accompagnements, mais vous savez, parfois, je ne sais pas, on a l'impression que peut-être ceux qui ont bénéficié une fois, deux fois, n'en ont plus besoin. Or, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un processus. Quelqu'un qui a commencé, je ne suis plus au même niveau où j'étais il y a 10 ans, mais j'ai envie d'être à un niveau supérieur. Mais ça ne se fait pas parce que peut-être les gens pensent que oui, tu as évolué depuis 10 ans, qu'est-ce que tu fais? Moi, je me dis, un entrepreneur, il a besoin d'être accompagné sur une longue période. Vraiment, pour se former d'abord, c'est ça aussi le plus important. Pour se former, avoir des mentors, avoir un apport financier et pouvoir aussi embaucher d'autres personnes. Je me dis, peut-être dans notre entourage, nous les entrepreneurs, on essaie de se serrer le coude, mais ça reste beaucoup.
Est-ce qu'il y a des opportunités qui s'offrent à vous ici au Niger aujourd'hui? En termes d'opportunités?
Je ne saurais répondre, mais je me dis, ça se fait timidement. Une petite anecdote. Et hier, j'étais partie voir quelqu'un dans le cadre de la promotion de notre savon. Et puis, il y a un monsieur, il me dit, oui, c'est bien beau votre savon, mais vous, les Nigériens, dès que vous commencez aujourd'hui, demain, vous allez arrêter. J'ai dit non. Vous savez, il y a un savon là qu'on appelle dans Alger, là, communément. Je dis, au lieu d'aller acheter ça jusqu'en Algérie, donnez-nous les commandes. J'ai dit, si vous achetez 1000 cartons dehors, essayez de nous donner ces 1000 cartons et vous allez voir
ça
si on va...
Ça va booster.
Et puis, il m'a regardé, il m'a dit, mais ce n'est pas faux. Donc, vous voyez, c'est ce genre de choses. Si nous-mêmes, on s'encourage, on s'entraide, on fait les choses entre nous, je pense que ça va nous permettre d'arriver à un autre niveau. Je dis, on n'a pas forcément besoin que l'État nous aide à chaque fois. C'est vraiment les commerçants, la population... Les gens avec lesquels nous sommes, et s'ils acceptent vraiment de mettre la main à la poche pour acheter nos produits, pour nous encourager, je pense que
tout
ça
de suite, on parlait du formel, de l'informel avec Madame Souradja. Vous, aujourd'hui, vous évoluez
dans le formel, l'ai toujours
été. Mais vous avez débuté comment?
Non, j'ai toujours... peut-être comme j'étais déjà j'ai grandi dans le monde entrepreneurial et tout, j'ai tout de suite vraiment voulu être dans le monde formel, quoi. Parce que pour moi, après, quand tu l'es pas, il y a toujours les impôts qui te dérangent par-ci, par-là, tu es obligé de te cacher, tu es obligé de mentir quelque part. Moi, j'ai toujours vraiment voulu être dans le formel.
Oui, justement, pour celles qui nous écoutent aujourd'hui, des femmes qui font des petites activités, qui entendent le formel, pouvez-vous leur expliquer? Qu'est-ce que le formel, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui?
Le formel, c'est déjà de dire, voilà, j'ai une entreprise, j'ai choisi un nom, je vais à la chambre de commerce, je paye, je pense que c'est 17 500 pour avoir son IF et son RCCM, c'est en 3 jours. Et puis après, là, on n'a vraiment plus à se casser la tête parce qu'aujourd'hui, même les factures certifiées et tout, tant que tu n'as pas ton IF et ton RCCM, tu rates beaucoup d'opportunités. Le seul problème, c'est que après les impôts, ce n'est pas toujours évident pour tout le monde parce que quand tu fais une petite activité, ce n'est pas évident. Mais aujourd'hui, il y a quand même de la souplesse parce que quand tu ouvres une nouvelle entreprise, tu es exonéré d'impôts même pendant 2 ans. Tu fais la déclaration, tu fais la demande d'exonération et sur 2 ans quand même, je pense que tu as le temps de te formaliser, de voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas.
Justement, à ce niveau, nous avons voulu avoir la chambre de commerce mais qui n'a pas envoyé de représentants pour des raisons qu'on ignore. Aujourd'hui, Madame Amina Fortitude Réagisse, vous avez déjà combien d'années?
Beaucoup, hein, parce que je vous ai dit, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui mute, si on peut dire, hein, avec le temps.
Et vous employez aujourd'hui des...
Oui, essentiellement toutes mes entreprises. Je suis la seule femme, hein, c'est drôle. tous mes employés, c'est des hommes.
Le genre n'est pas respecté.
Ce n'est pas ça. C'est ce que je vous dis. Du côté de la restauration, si, parce qu'on avait un restaurant, mais la force des choses a fait qu'on a fermé. Aujourd'hui, quand on a des contrats et tout, c'est les femmes qui viennent, mais c'est les hommes qui servent. Et dans le cadre de la gestion des déchets, ce n'est pas évident d'avoir des femmes qui ramassent les déchets, qui font le tri et tout. Mais on a vraiment cette ambition parce qu'on espère pouvoir avoir les moyens pour pouvoir ouvrir un centre de tri et de recyclage des déchets.
Alors vous, Madame Souradja, comment se passe votre travail? Vous avez des employés?
Oui. Nous avons des employés, beaucoup plus de femmes que des hommes. Mm-hmm. C'est idée féminine, bien sûr.
Et c'est aussi les épices.
C'est aussi les épices, ça part de la cuisine. Je voulais tout simplement de passage dire qu'une entreprise a une durée de vie de 99 ans. Mm-hmm. Donc, on ne finit jamais d'apprendre, comme elle a dit. Et j'ai parlé tout à l'heure un peu sur l'hygiène. Et aujourd'hui, je vais parler de l'ANMC, l'agence, n'est-ce pas, de certification qui est là, basée à Niamey. Je pense que tous ceux qui sont dans l'agroalimentaire qui m'écoutent, certains connaissent déjà vraiment cette agence. Il va falloir que les gens puissent valoriser les produits parce que quand nous sommes dans le domaine de tout ce qu'on consomme qui est agroalimentaire, il va falloir respecter les mesures d'hygiène comme je l'ai dit. C'est disponible aujourd'hui d'amener tes produits et de les faire certifier. Et ce que moi je fais, et j'ai déjà deux produits qui sont certifiés.
Lesquels?
Marga Marga épices et Dandano bouillon naturel. C'est certifié depuis 2 ou 3 ans et nous sommes en train de faire la certification de la farine infantile. Pourquoi? Parce que nous avons vu que au lieu que les femmes se jettent sur les céréales et autres, on ne sait même pas c'est quoi, autant consommer ce qui est fait à base de nos céréales locaux. Et voilà, donc en tout cas au niveau de l'idée féminine, voilà ce que nous sommes fait comme bataille cheval de bataille, parce qu'il faut que les gens qui consomment puissent être sûrs de ce qu'ils sont en train de manger. Est-ce que c'est parce que c'est pas propre que les gens ne se hâtent pas sur ça, mais quand même, dans mon cas, dans le cas de l'idée féminine, on remercie vraiment la population qui nous fait confiance sur vraiment les produits. Et le produit phare, c'est Marga Marga épices. Et les gens que nous utilisons sont toujours là. Et la formation aussi continue. Et les femmes sont vraiment dévouées.
Et vous employez combien de personnes?
Il y a 10. Il y a 10, mais il y a des moments où quand il y a des travaux de masse, c'est-à-dire le moment où on veut traiter beaucoup d'épices, de matières premières par saison, donc on peut aller jusqu'à 20.
Et ils sont payés régulièrement ou bien
Ceux qui viennent pour travailler de façon ponctuelle sont payés par cash.
D'accord.
Et il y a ceux qui sont payés par mois.
Nous allons observer une courte pause avant de poursuivre. Merci. Femmes et entrepreneuriat au Niger, opportunités et obstacles, c'est le thème de notre émission pour ceux qui viennent de nous prendre en cours. Et dans cette deuxième partie de ce forum qui est consacré aux obstacles et défis liés à l'entrepreneuriat féminin ici au Niger, vous avez entendu donc ces deux femmes battantes qui œuvrent vraiment pour que la société en bénéficie. Et selon une étude du Global Monitor Entrepreneurship, les femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat sont moins représentées dans le secteur d'activité associé à des stéréotypes masculins, c'est-à-dire les secteurs d'activité où les hommes sont les plus représentés. Alors vous, Madame Amina, que dites-vous de cette affirmation ou bien de cette étude? Quelle est la situation? Est-ce que c'est réel ici au Niger?
Réel ou pas, je ne maîtrise pas trop, je ne vais pas trop m'aventurer, mais je pense que avec le temps, on essaye de s'associer au maximum pour travailler, parce que j'aime toujours le dire, on n'est pas conquérant, mais on est complémentaire. Donc il y a des choses des domaines qui étaient dits réservés aux hommes, où aujourd'hui on a quand même besoin de la finesse de la femme, parce que la femme c'est la finesse, c'est tout ce qui est vraiment esthétique et tout. Je pense que avec cette touche féminine, on arrive à aller loin.
Et justement, donc, voici l'exemple avec votre activité, le recyclage, la fabrication des pneus ou des poufs avec les pneus, oui.
Donc voilà, je me dis, il y a des études qui sont faites et je dis, je ne m'aventure pas trop parce que je ne maîtrise pas les réalités différentes d'un pays à un autre.
Aujourd'hui, quels sont les obstacles que vous, femmes entrepreneurs, vous êtes confrontées, vous faites face ici au Niger?
Madame Nafissa, je vous ai dit, le plus grand obstacle, c'est le manque de soutien financier. Je ne vais pas bouger de ce point. Quel que soit ce que tu fais, si tu es financièrement stable, je pense que les autres obstacles sont gérables. Mais tant que tu es financièrement instable, même quand quelqu'un te regarde là, il va t'énerver. Parce que tu te dis, tu as envie d'arriver à un point où tu n'arrives pas parce que financièrement, tu es limité.
Est-ce que vous avez aujourd'hui besoin du financement de l'État, un financement quelconque?
Bien sûr, il y a des subventions qui sont là, il y a le financement. Moi, j'ai tellement d'ambition que je me dis, aujourd'hui, Unil est vert là. Pourquoi ne pas reprendre ça? Pourquoi ne pas reprendre Unil est vert et faire un truc sur place?
Local, les femmes local, qui vont fabriquer le savon, des savons tout, locaux.
Et ça va revenir peut-être à moins de 100 francs ou 150. Mm-hmm. Quand on parle de la gestion des déchets...
Et c'est tout le monde qui va en bénéficier.
Quand on parle de la gestion des déchets, pourquoi ne pas avoir... C'est vrai que c'est en cours, hein, on m'a dit, avec la Banque mondiale, avec la mairie et tout. Pourquoi ne pas avoir un grand centre de tri, des dépotoirs partout, vraiment réglementé et réglementaire, pour faire travailler les gens. Donc, ce n'est pas que moi, mais c'est des idées qui sont là où l'État peut subventionner avec leurs partenaires et mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut pour vraiment travailler, en fait.
Le manque d'accompagnement financier est l'un des plus grands obstacles ici au Niger, concernant l'entrepreneuriat féminin. Vous, Madame Souradja, est-ce que vous êtes aussi d'avis?
Oui, mais on doit reconnaître aussi que l'État a fait, mais ce n'est pas suffisant. Mm-hmm. Je vais parler de ce que moi j'ai bénéficié. Au niveau de la Chambre de commerce et la Maison de l'entreprise, ils ont ce qu'ils appellent le fonds à copartagé, qu'ils font chaque année. Moi, je ne sais pas si cette année-là, ça a été planifié. Nous, à Aider Féminine, nous avons bénéficié de cela au moins à deux reprises. Nous avons bénéficié de cela au moins à deux reprises. Mm-hmm. C'est pas suffisant, comme l'a dit ma collègue. C'est-à-dire, comme elle a dit au tout début, lorsque on te finance ou bien on te donne un petit soutien, il va falloir suivre. Il va falloir suivre et après savoir à quel niveau l'activité est arrivée ou à quel niveau encore il faut encore épauler l'activité. Parce que nous sommes dans l'industrialisation, nous sommes dans l'artisanal au fait. Donc chaque entreprise a l'ambition d'aller vers l'industrialisation. Et ça, c'est un chemin, c'est un processus. Et tant que l'État peut faire, ils ont fait ça à un niveau. Tant que l'État peut faire la liste, recenser ces entreprises qui tiennent, parce qu'il faut le dire, des entreprises qui travaillent réellement, et qu'on sait que vraiment, ce sont ces entreprises qui ont de l'avenir. Alors, qu'est-ce que l'État doit faire? Continuer à aider, à soutenir, à les accompagner.
Mais comment? À travers des formations?
Formation, financement, équipement.
Oui.
Nous avons besoin d'équipement. Au fait, l'entrepreneur n'a pas forcément besoin que de l'argent. L'entrepreneur a besoin d'être coaché, d'être suivi, d'être écouté. D'avoir une ouverture de marché, ça ne sert à rien de produire aujourd'hui beaucoup de produits et tu ne sais pas là où tu vas les aller. Mais l'État peut nous aider à faire ça.
Et justement, parlant d'écoulement, comment vous arrivez à écouler vos produits même?
Très difficilement. Et je vais vous dire, chaque entrepreneur connaît son secteur. Moi, je suis dans l'agroalimentaire. Quand j'ai commencé, directement, je suis partie voir un supermarché de la place. Mais si vous vous asseyez pour que quelqu'un vous cherche ou bien chercher des agents, tu n'as pas l'argent pour faire tout ça, ça ne fera pas l'affaire, il faut t'élever. Donc, on cherche de porte à porte, de bouche à oreille, et on fait comme ça jusqu'à ce qu'on se place sur le marché.
Et les foires, les salons qu'organise l'État, notamment le SAFEM, le Sahel, qu'est-ce que cela? Est-ce que vous participez d'ailleurs à des foires internationales, nationales?
Tout à fait, nous participons à ces foires-là. Souvent, c'est via la Chambre de commerce, comme nous sommes là-bas. On nous informe, on a des formations au niveau de la Chambre de commerce. C'est dommage que Mme Nana, parce que ça n'est pas venue. Et vraiment, ils font cet effort de chaque mois faire une formation. Et vraiment, ça nous a beaucoup aidés. Et les foires-là qu'on organise, ça ferme le Sahel et tout ça, ça nous aide. Nous avons eu même l'occasion de sortir du Niger, d'aller au Sénégal, d'aller à Lomé pour aller présenter nos produits. Oui, c'est une très bonne chose, mais je dis, ça reste toujours à venir. Ça reste toujours à venir. Les marchés là sont ici, ce n'est pas ailleurs. Si vous allez dans les institutions de l'État, les marchés sont là. Pourquoi aujourd'hui on ne peut pas commander les jus qui sont faits par ces femmes-là?
Est-ce que vous avez une stratégie quelconque pour vraiment amener la population à aller vers vos produits?
La stratégie va commencer par l'État n'a qu'à commencer à consommer nos produits. L'État n'a qu'à cesser de prendre des produits qui sont venus d'ailleurs. Que ça soit des jus lorsqu'ils font leur pause café. Ils doivent identifier les femmes qui font les jus et qui les ont certifiées. Je tiens sur l'hygiène.
D'accord.
C'est important. Ils n'ont qu'à commander les copteaux. Voilà.
Le moringa.
Le moringa. Ils n'ont qu'à commander et puis la restauration n'a qu'à se faire du début jusqu'à la fin par un produit local. Mm-hmm. Il n'y a pas dans la chaîne de la cuisine aujourd'hui ce produit qu'on ne transforme pas au Niger. Le couscous est transformé, le riz du Niger est transformé. Mm-hmm. Je connais des entrepreneurs qui font ça, qui font que la transformation du riz du Niger.
D'accord.
On fait toutes ces choses-là, le lait et tout, les yaourts, tout est là. Mm-hmm. Donc, il suffit de nous suivre pour que toutes ces femmes puissent aller, je dis bien, certifier leur produit.
Oui. Aujourd'hui, vous, votre entreprise, quelles sont les plus grandes difficultés que vous rencontrez?
La difficulté, d'abord, ça commence par les emballages. Les emballages dans lesquels les pots et les enveloppes dans lesquelles nous mettons nos produits. Mm-hmm. Et tout, absolument tout, nous vient d'ailleurs. Mm-hmm. Rien ne se fait ici.
Alors, il n'y a pas de...
Pas encore.
D'entreprises qui le font?
Non, je pense qu'il n'y a pas. Si ce n'est pas, ça vient du Nigeria, ça vient de Burkina, Abidjan, Accra. Rien ne se fait ici.
Mm-hmm. Il faut que vous
Il faut qu'on les exporte, il faut qu'on les amène d'ailleurs. Alors, notre cri de cœur, c'est que ce problème d'emballage est à la base du prix de revient que le client final continue toujours de se plaindre que nos produits sont chers.
Oh,
et le produit est cher tout simplement parce que déjà l'emballage coûte déjà cher. Ce n'est pas la matière première qui coûte cher. C'est l'emballage. Donc, ils ont commencé l'année passée. Je pense que c'est en cours, mais il va falloir travailler sur ça. C'est le plus grand problème.
C'est le plus grand problème de votre côté, Madame Amina. Aujourd'hui, vos produits, vous transformez des pneus en pouf, des salons. Comment vous arrivez à les écouler aujourd'hui?
Ah, c'est qu'à la commande, hein, parce que ce n'est pas...
Très prisé.
Oui, ce n'est pas trop prisé. Mm-hmm. C'est parfois les expats ou bien des gens qu'on connaît ou bien des gens qui veulent ça pour des décorations. Mm-hmm. Parce que pour eux, pour certaines personnes, c'est toujours un vieux pneu usé qu'on a pris, qu'on a habillé. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec? Mm-hmm. Et si ça coûte cher, parfois aussi, c'est parce que, comme le disait madame, tout est fait de manière artisanale. Mm-hmm. Aujourd'hui, si notre production est industrialisée, on va gagner non seulement du temps et puis ça va devenir un peu moins cher. Mm-hmm. Donc, on en faisait au début pour déposer, mais là, on fait à la commande parce que ce n'est pas le fort des gens de prendre les poufs et autres. Pour le savon, aujourd'hui, beaucoup de personnes font le savon liquide et tout. Il faut juste avoir la manière de différencier, que ça soit peut-être moins cher et plus consistant. Mais moi, je mets plutôt l'accent sur le savon dur, dit de lessive ou de toilette. Mm-hmm. Parce que je dis, quelle que soit ta situation, quand même, on se lave et on fait la lessive.
Et est-ce qu'il vous arrive aussi d'exposer vos produits à des foires?
J'en ai fait à un moment, mais ça fait longtemps quand même que j'ai pas participé à des foires. Mm-hmm. Parce que comme j'ai dit, comme je ne fais plus les choses pour déposer, souvent je dis j'ai des photos. Parce qu'en fait, ça coûte énormément de l'argent de faire toujours des échantillons et de déposer. Yeah, ça fait quand même longtemps que je n'ai pas participé à des foires. Mm-hmm. Pour certaines raisons de santé et autres. Et puis après, je me dis quelquefois, il faut un peu se cacher de tout, reprendre certaines chose, faire de plus jolies choses et puis ressortir, dire voilà, j'étais pas là parce que je travaillais sur quelque chose et voilà le résultat en fait.
Et parlant de chiffre d'affaires aujourd'hui, que pouvez-vous nous dire?
Je dirais ça va, ça vient en dents de scie parce que imaginez un petit exemple concernant la fabrication du savon. Toutes nos matières premières, c'est ce que disait madame, c'est toujours le même problème. Toutes nos matières premières, on n'arrive pas à les avoir à Niamey. Mm-hmm. Supposons, il y a une huile avec laquelle on fait le savon. Le bidon d'huile de 25 litres coûte entre 25 000 à 30 000 ici. Mm-hmm. Alors qu'au Bénin, le bidon d'huile de 25 litres coûte 13 000. Mm-hmm. Donc, voyez-vous la différence? 13 000 au Bénin, 25 000 à 30 000 au Niger. D'accord. Donc, comment est-ce qu'on va s'en sortir? C'est pour cela que je dis ça va en dents de scie. On espère juste avoir assez de moyens pour prendre une bonne quantité de tout ce dont on a besoin. Et puis, voilà, à faire le maximum de fabrication.
Merci bien. Oui, vous voulez dire, Madame Souraja?
Ok, c'est concernant le climat des affaires, surtout, comme elle a touché un point. Ce que je voulais demander, si possible, à ce que l'État puisse aider les femmes, c'est dans la communication.
Nous allons venir aux solutions, aux recommandations de la dernière partie. Nous allons observer une courte pause. Nous sommes dans la dernière partie de cette émission et nous allons voir les solutions durables à prendre pour promouvoir la culture entrepreneuriale chez les femmes ici au Niger. Alors, au vu donc de toutes les difficultés que viennent de dire, d'évoquer ces femmes entrepreneurs engagées, alors, Madame Souraja, je reste avec vous. Aujourd'hui, comment vous pensez qu'on peut promouvoir davantage l'entrepreneuriat féminin?
Merci, Madame Nefissa. Je disais tantôt qu'il va falloir que l'État continue à nous aider, surtout dans la communication. La communication, c'est-à-dire, par exemple, à chaque ouverture de journal, ou je ne sais pas, que ce soit télévisé ou radio, qu'il puisse parler de l'entrepreneuriat.
De l'importance
des produits que nous transformons, que ce soit agroalimentaire sur tous les domaines. Et que certains Nigériens ne savent même pas véritablement, si ça existe, certains produits existent chez nous. Ils ne savent pas. Donc, il va falloir aussi recenser et sensibiliser les femmes sur la portée de l'hygiène, de l'hygiène de tout ce que nous faisons. Il va falloir aussi coacher et suivre ces femmes dans le domaine de la gestion. Il va falloir aussi sensibiliser les jeunes. Si vous prenez aujourd'hui dans le cadre de la transformation, ce sont ces dernières années que je vois les jeunes s'intéresser. Mais ce sont des femmes d'un certain âge qui sont engagées dans la transformation. Pourquoi? Parce que c'est fait de façon artisanale. Et les jeunes d'aujourd'hui, excusez-moi du terme, n'aiment pas trop se dépenser physiquement. Alors que la transformation, vraiment, quel que soit ce que ça soit de l'agroalimentaire ou bien cosmétique et autres, ça demande de l'engagement. Aujourd'hui, vous allez voir les femmes, je connais, qui font du jardinage, qui se battent dans l'élevage, du maraîchage. Vous allez voir, à peine les jeunes, vous les prenez aujourd'hui, deux semaines après, ils sont sortis, il faut changer, il faut sensibiliser. Ils vont aller chercher du travail, alors qu'il y a du travail chez eux. Il y a du travail.
Aujourd'hui, donc, oui.
Donc, pour aussi écouler le produit, comme je l'ai dit, je reviens sur ça, l'État doit donner l'exemple. L'État doit donner l'exemple en faisant des commandes, en donnant ses marchés publics, privilégier les femmes.
Aujourd'hui, vous n'avez aucune commande étatique?
Non. Alors qu'il faut le chercher, je vais le dire carrément, il faut faire le gel honneur devant les boutiquiers, les supermarchés de la place. Aujourd'hui, tu prends, demain, ils ne prennent pas. Bon, c'est vrai, nous, on a pu quand même se faire imposé sur le marché, ça fait un moment. On a quelques nombres de supermarchés où vous allez trouver le marga marga de idées féminines partout. Vous allez trouver dandano bouillon naturel et autres. Mais je vois que les gens peinent à le faire. Et les gens qui font aussi comme nous n'ont qu'à faire mieux que nous.
D'accord.
N'ont qu'à faire mieux que nous.
Alors aujourd'hui, de plus en plus de femmes font des petites activités pour être indépendantes, si je peux le dire. Pour celles aujourd'hui qui souhaitent aujourd'hui entreprendre, comment ça marche? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Quel est le procédé à suivre?
Ayant déjà fait l'expérience, je pense que j'ai quelque chose à dire. Il ne faut pas faire du copier-coller. C'est-à-dire, j'ai vu celui-là ou celle-là fait telle chose, ça marche bien, je vais en faire.
C'est pas évident ça marche avec...
Exactement. C'est pas évident que ça marche avec toi parce que ça marche avec l'autre. Il faut aussi aimer ce que tu fais. Il faut de l'amour parce que c'est ça qu'elle vient de dire, ma collègue. On commence pas et après on arrête. Nous avons fait du chemin, je vous dis, depuis 2001, vous voyez, jusqu'à maintenant. C'est une passion. Il faut aimer ce qu'on fait et il faut savoir comment communiquer aussi autour de son produit.
Oui, mais est-ce qu'il y a aussi une formation à la base? Est-ce que vous avez déjà suivi une formation avant d'embrasser la production, la transformation en produits épices?
La transformation agroalimentaire a des formations. Mais en ce qui concerne le choix que moi j'ai fait, j'ai eu ma formation d'abord à la maison. Donc, j'ai été formée dans une famille où on ne consomme pas tout ce qui est aromagé. Je ne suis pas contre ça. On ne consomme pas des assaisonnements, des additifs culinaires. Vraiment, on consomme toujours tout ce qui est naturel. Et partant de là, même la tomate en boîte chez moi, je ne connaissais pas. Donc, c'est tout ça qui m'a poussé et qui m'ont aidé à développer cette ambition d'aller vers cela parce que j'ai vu mes parents évoluer, grandir, vieillir sans aucune maladie. Par exemple, c'est ça d'abord la première chose. Et oui, la motivation. Et je vois comment les gens maintenant consomment du tout pour pouvoir donner du goût. Alors que tout est disponible. La formation, on en fait aussi. On fait la formation pour les jeunes. Dieu merci, ils sont en train de prendre conscience.
Alors, Amina, aujourd'hui, comment promouvoir davantage l'entrepreneuriat féminin dans le pays?
Je pense que c'est d'avoir davantage d'ouverture. Moi, j'ai toujours aimé la création de divers centres dans divers domaines parce que ça encourage de dire qu'on a un cadre vraiment réglementaire où on sait qu'on va apprendre de la base jusqu'au sommet. Je pense que toutes ces choses sont encouragées. Je dis toujours, on n'est pas tous destinés à faire de grandes études ou à avoir quelque chose dans l'école. Donc, ces petits centres-là, ça va être des cadres et ça va motiver les personnes à aller. Parce qu'un parent, quelqu'un va lui dire que je voudrais faire ceci, je voudrais faire cela, il ne va pas voir trop l'importance ou l'impact. Mais quand il sait que, par exemple, vous voyez les Samaria qui existaient avant, on peut ramener ces mêmes cadres, mais que ça soit vraiment des cadres de formation. Et je pense que ça peut booster un peu tout le monde à aller dans ce sens et apprendre quelque chose vraiment dans le formel.
Et aujourd'hui, pour celles qui veulent entreprendre, quel appel avez-vous à lancer à vos sœurs?
Voilà, foncez. De toutes les façons, on n'apprend que de ses erreurs. Hein. Il n'y a aucun parcours qui est parfait. On va, on se cogne la tête, on se casse la tête, on saigne, on pleure, on se relève. Et c'est ça qui fait la force. Il n'y a aucun parcours excellent. Il n'y a aucun parcours parfait, j'allais dire pas excellent. Il n'y a rien qui est tracé. Il faut se dire que voilà ce que je veux faire. Les obstacles, quand ça arrive, on les prend. On tamise, on voit ce qui n'a pas marché, on se dit que je ne vais pas reprendre la même erreur. Et puis voilà, ça nous permet d'y arriver et d'être là où on est.
Et pour le recyclage des déchets solides non biodégradables, il faut une formation aussi au préalable?
Moi, je suis autodidacte, j'ai tout appris sur l'Internet. J'ai tout appris sur l'Internet. Après, quand tu es passionné, tu n'as pas besoin forcément d'attendre une formation. Il y a des choses que tu imagines, il y a des choses que tu vois. Et je dis toujours, tu regardes ce qui a été fait ailleurs, tu l'adaptes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand même, il y a beaucoup de centres où on peut apprendre. Pour moi, c'est vraiment la matérialisation de ces idées. Donc voilà, quoi. Pour moi, on se lance, on a quelque chose, on se lance, on voit ce que ça donne. Après, on essaie de voir. Moi, je conseille aux gens, allez-y vers ces personnes qui font déjà ce qui vous passionne. Comme ça, en étant avec eux, vous allez voir si vous pouvez vraiment tenir, si ça vous tient à cœur et si vous voulez changer de direction, en fait. Parce que parfois, on a l'impression que j'ai envie de faire ça, j'aime ça, mais quand on vient sur la réalité, c'est pas ça. Donc, approchez-vous de ces personnes et nous aussi, il faut qu'on soit ouvert parce que parfois, il y a des personnes, elles ont peur même d'approcher ces personnes qui sont dans un domaine précis parce qu'on est trop fermé. Il faut qu'on accepte qu'on ne peut pas tout faire seul. Quand on a des gens sous notre coupe, on les forme. Demain, même s'ils sont meilleurs que nous, on aura au moins cette fierté d'avoir contribué à leur réussite.
Voilà. Alors, Madame Souraj, à votre dernier mot, un appel à toutes vos sœurs qui veulent entreprendre aujourd'hui, à l'État, pour terminer.
Oui, merci. Je pense que l'appel d'abord aux femmes, c'est que je pense que l'heure est vraiment à la détermination, l'heure est à la décision. Les femmes doivent se lever, attacher leur ceinture, attacher leur pagne et se battre. On parle trop de l'autonomisation, mais jusque-là, parce que ça reste beaucoup à faire. Donc, et du côté de l'État, comme je l'ai dit, nous attendons. Ils ont fait. Ils sont en train de faire. Nous attendons vraiment encore plus.
D'accord. Alors, l'heure est à la détermination. Les femmes doivent être déterminées pour un changement positif. Et de plus en plus, on les voit présentes dans tous les secteurs d'activité génératrices de revenus. Mais les femmes entrepreneurs se plaignent souvent du non-accompagnement de l'État, ne serait-ce qu'en formation, à travers les interventions de nos invités. À l'État de promouvoir davantage la consommation des produits locaux pour booster vraiment les activités génératrices à revenus des femmes entrepreneurs ici au Niger. Et c'est ici que se referme ce forum. Nous étions en compagnie de Madame Assouma Abdou Souraja, promotrice de idées féminines qui excelle dans l'agroalimentaire. Merci d'être venue. Madame Amina Issa Ado, promotrice de Fortitude Réagis, qui évolue dans le recyclage des déchets solides non biodégradables. Merci à vous.
Merci.
Je suis Nafissa Adam Sirfa, la modération. La technique est assurée par Abdelkader Chombiano. À très bientôt sur le studio Kalangou. Au revoir.